Bonsoir à tous. Bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information a le plaisir de vous accueillir pour la suite de notre cycle mots d'économie. Ce soir, nous en sommes à notre quatrième séance, quatrième conférence. Pour ceux qui n'ont pas forcément assisté à la totalité du cycle, nous avons plutôt abordé des problématiques macroéconomiques, de régulation des marchés, de mise en place de différentes problématiques. Il y a une séance sur l'économie matérielle notamment qui a eu lieu en janvier. Et là, nous avons commencé à aborder des thématiques plus de politique économique et de régulation. La dernière séance avait eu lieu sur les dettes souveraines et la spéculation. Nous allons aborder ce soir le thème des politiques économiques et notamment des politiques de rigueur et de relance sur ces deux concepts, avec d'autres concepts qui peuvent être développés derrière, dont vous avez beaucoup entendu parler dans l'actualité. Il va être à nouveau question de construction européenne, de crise économique. L'intervenant de ce soir se nomme Olivier Passé. Il a été longtemps dans les institutions de prospective et d'études de l'économie, notamment au Conseil d'analyse économique du Premier ministre et ensuite au Commissariat général au plan. Il travaille actuellement à l'Institut d'études économiques depuis 2 ans maintenant. Et il va nous présenter une conférence sur rigueur ou relance. Je vais lui laisser la parole et je vous souhaite une bonne soirée.
Bonsoir à tous. Merci d'être venus en nombre et merci pour le courage de tous les lycéens que je vois là, d'aborder des questions austères en soirée comme ça. Bon, je vais vous présenter un des débats les plus clivants de l'analyse économique. Rigueur, relance, c'est un sujet qui est une ligne de partage très conflictuelle parmi les économistes. Et puis même en dehors du champ de l'économie, c'est ce qui va opposer la plupart des personnes dans le commentaire au jour le jour de l'actualité. Et vous vivez une période de rigueur. Et puis je vais intervenir le jour même où la grande figure emblématique de la rigueur et de la dureté dans la conduite des politiques publiques, cette femme qui avait cassé les syndicats, qui avait cassé les salaires, qui avait cassé les dépenses publiques, Margaret Thatcher, donc vient de disparaître. Alors que, première chose, je ne crée aucun suspense dans ma présentation, vous verrez, j'ai l'intention d'aller vers un point bien précis. Bon, la rigueur, vous voyez bien que ça a deux sens, c'est à la fois une forme de dureté, de sévérité dans la conduite des politiques économiques, c'est l'idée de la purge, et puis en même temps c'est l'idée d'exactitude. Et donc je pourrais poser une question, est-ce que la rigueur est bien rigoureuse aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une assise rigoureuse derrière la rigueur? Et ma réponse, elle sera simple, la rigueur pour la rigueur n'est pas une politique. Présenter la rigueur comme une solution à un certain nombre de problèmes, c'est revenir un petit peu au temps des médecins de Molière, c'est de présenter la saignée, la purge comme quelque chose qui peut soigner un malade. Alors, on le sait tous, si l'on se contente de la rigueur ou de l'objectif de la rigueur, de la saignée ou de la purge, la seule chose que l'on produit, c'est un affaiblissement du malade. Et heureusement, bon, la science économique est peut-être moins avancée que la médecine, même bien moins avancée que la médecine, mais elle nous offre d'autres perspectives. Bon, à la fois on a du temps, mais pas tant que ça, parce que la rigueur et relance, c'est, je vous l'ai dit, ça, je peux relire pratiquement tous les courants de l'économie à travers ça. Et mon but, c'est d'alterner à la fois les chiffres, l'actualité et les débats théoriques. Et donc finalement, 3/4 d'heure, c'est court. Donc juste. Aussi, pour aller vers ma réponse, qui est de dire la rigueur pour la rigueur n'est pas quelque chose en soi, je ne nie pas toute utilité, ni toute nécessité à certains moments de l'histoire économique, eh bien, on a de multiples expériences historiques de rigueur. On a très peu d'expériences réussies, au fond. On a très peu d'expériences réussies. Bon, vous avez tous en tête la crise de 29, vous avez peut-être moins en tête ce qu'on a appelé l'erreur de 37, c'est-à-dire au moment où, aux États-Unis, on a cru qu'on avait relancé la machine, et puis on s'est dit à ce moment-là, tiens, ben, on va rétro-pédaler, on va reconstituer un petit peu notre situation financière rapidement. Et puis, tout s'est effondré à nouveau, comme un soufflet. On a également l'exemple du retour de De Gaulle avec Pinet. Pinet qui est à la fois devenu une sorte d'emblème et de héros de l'économie, mais dont on ne sait pas très bien si c'est lui qui a fait l'histoire ou l'histoire qui l'a fait. Donc le bilan n'est pas net. Vous avez l'exemple de Raymond Barre au moment des chocs pétroliers, cette fameuse politique de rigueur qui, en fait, finalement, s'est soldée par une cristallisation du chômage de masse. On n'a pas vu d'issue, ni de sortie, ni d'embellie à travers ce type de politique. Vous avez le tournant de la rigueur des premières années du gouvernement socialiste, 83, là aussi, qui était une réaction à une autre forme d'erreur, qui était le fait d'avoir fait des relances à un mauvais moment. Mais là encore, la rigueur pour la rigueur a amené un certain nombre de solutions, mais ça n'a pas été suffisant. Et surtout, la rigueur à ce moment-là était accompagnée d'un très fort investissement sur l'Europe et sur la question européenne. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste mené une politique de rigueur comme étant une fin en soi. Donc nous voilà certainement dans la crise l'une des plus graves de l'après-guerre, si ce n'est la plus grave, et avec à nouveau ce débat qui traverse pratiquement toutes les discussions de savoir quelle place il faut aujourd'hui à la rigueur, quelle place il faut éventuellement une politique de relance, dans quel ordre procéder surtout à ce type d'ajustement, parce que ça c'est une question extrêmement importante. Alors vous verrez, j'ai fait quelque chose, j'ai fait un petit plan, ce qu'on appelle à l'anglo-saxonne, avec plusieurs petites questions. D'abord je vais essayer de vous préciser ce qu'est la rigueur, parce qu'à la fois c'est un mot, hein, c'est un mot fourre-tout. Donc j'ai essayé de vous montrer qu'il a différentes dimensions. Hein, il ne se limite pas à un seul objet. Ensuite, je vais vous rappeler les chiffres de la rigueur. Alors rassurez-vous, pas les chiffres pour les chiffres, mais pour vous montrer la portée des chiffres, pour que vous compreniez derrière des masses un certain nombre de milliards qui parcourent la presse et l'actualité, vous représentiez ce que ça représente en termes de ponction sur la croissance, et que vous appreniez peut-être à rapidement retranscrire ces chiffres, c'est-à-dire à les analyser d'un point de vue économique. Ensuite, je vais donner une chance quand même à la rigueur. Je vais me demander pourquoi la rigueur et comment peut-elle fonctionner. Quel est le scénario implicite, quel est le scénario sous-jacent. Et puis, je vais quand même m'interroger, et puis vous le voyez tous, sur les effets secondaires de la rigueur, de cette thérapie. Et je terminerai sur les alternatives. Et j'espère avoir un peu de temps pour vous parler des alternatives des politiques de rigueur. Alors, je vous ai dit, premier point, qu'est-ce que la rigueur, l'option de la rigueur? Alors, on a tous en tête, la rigueur, c'est redresser les comptes publics. C'est l'État qui se comporte en ménage raisonnable et qui tout d'un coup voit son déficit crouler, ses comptes virés au rouge et qui à un moment donné va soit restreindre les dépenses, soit prélever des recettes et redresser le budget. C'est l'actualité du moment évidemment. Alors quand est-ce qu'on emploie ce genre de politique? C'est parfois pour ralentir la croissance quand il y a surchauffe, mais vous voyez que c'est pas tout à fait. Donc ce qu'on appelle surchauffe, c'est quand l'économie s'emballe, va trop vite. Et puis c'est parfois par nécessité, parce que les comptes publics sortent des clous et on risque de rentrer dans ce qu'on appelle un phénomène boule de neige, hein, d'empilement de la dette sur la dette, et le phénomène est incontrôlé. Hein, il arrive un moment, et ça j'ai pas besoin d'expliquer, vous le devinez tous, il y a des seuils, c'est-à-dire en dessous d'un certain seuil ça va, c'est soutenable, vous avez un consentement à payer l'impôt, qui est d'ailleurs très élevé en France, hein, donc ça laisse pas mal de marge de manœuvre, on est le pays d'Europe probablement où le consentement à payer l'impôt est le plus fort, et l'acceptation, parce qu'il y a une très forte conscience de ce qu'il y a en contrepartie de l'impôt. Mais évidemment, derrière ce désendettement, même dans un pays qui est consentant pour l'impôt, vous devez quand même prendre soin de ne pas rentrer dans des phénomènes d'empilement cumulatif de la dette. Vous avez ensuite le deuxième pilier de la rigueur, c'est ce qu'on appelle la rigueur monétaire. La rigueur monétaire, c'est la banque centrale qui pilote ça, à travers les taux d'intérêt, à travers l'octroi de monnaie aux banques, et c'est ce qui va réguler le crédit. À un moment donné, vos agents privés, donc là vous voyez, on parlait plutôt des agents publics, les agents privés peuvent s'endetter trop, ou s'endetter pour de mauvaises raisons, pour spéculer sur un actif en général, l'immobilier ou les actions à travers l'histoire, hein, c'est, ça alterne. Hein, c'est un coup, on spécule sur l'immobilier, un coup sur les actions. Et puis maintenant, on découvre aussi la spéculation sur les matières premières. Donc évidemment, là, vous avez un deuxième pilier qui va passer par l'arme de la Banque centrale. Et puis, vous avez un sous-élément qu'on commente moins, mais qui est très important, parce que la Banque centrale n'assume pas ce pilotage, mais en fait, il est là. C'est le taux de change. Vous pouvez aussi créer de la rigueur à travers une monnaie surévaluée, et en particulier dans une économie ouverte, vous abordez la compétition internationale, le taux de change joue un rôle clé. Et puis, troisième volet, et puis j'évoquais Margaret Thatcher tout à l'heure, et tout, j'allais dire, c'est peut-être la première acception qu'on a en tête quand on pense à la rigueur des années 70, c'est la modération salariale pour restaurer la rentabilité, pour restaurer la compétitivité. Alors ça peut être sous une forme soft, douce, à la manière d'Helmut Schmidt, son fameux théorème, hein, restaurer les profits d'aujourd'hui, hein, pour l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain. Et puis c'est la méthode dure où on casse les syndicats, où on rentre véritablement dans une chasse au salaire élevé, en particulier pour les peu qualifiés qui sont soupçonnés d'être inemployables s'ils revendiquent des salaires trop élevés. À la limite, au-delà d'un certain seuil, pour les qualifiés, on tolère des salaires élevés et puis même parfois très très élevés. Le problème pour l'économiste libéral n'est pas le salaire des qualifiés, mais plutôt celui des non qualifiés. Alors si je regarde, vous voyez donc, la rigueur, elle a de multiples dimensions. Elle a de multiples dimensions budgétaires, monétaires, salariale. Et c'est la combinaison de ces trois éléments qui va vous faire basculer dans une rigueur sauvage ou dans quelque chose de soft. À la limite, si vous n'avez qu'un des éléments de la rigueur, ça passe. Si vous avez tous les éléments de la rigueur en même temps, là, vous vivez une véritable catastrophe économique. Et ayez en tête quand même qu'il y a des pays qui ont, ces dernières années, vécu une baisse d'un cinquième de leur production, de 20% en cumulé. C'est le cas de la Grèce. Ça va bientôt être le cas de l'Espagne. Bon, j'exagère un peu, mais on est autour de 12% quand même, du Portugal, donc toute la périphérie du Sud. Alors, je regarde le cas de la France. Aujourd'hui, on peut parler de rigueur budgétaire forte quand même. Du côté du crédit, régulation du crédit, taux d'intérêt, on est en détente, c'est-à-dire on essaye quand même de compenser. Côté change, eh bien, on a quand même un euro qui reste très surévalué par rapport aux conditions générales de l'économie. Et puis, dernier point, rigueur salariale, je dis modérée, ça reste à discuter. On va dire modérée parce que je ne veux pas mettre la France dans le cas d'autres pays européens qui, eux, vivent quelque chose d'extrêmement violent du point de vue des salaires. On est encore sur des taux de croissance très légèrement positifs des salaires horaires en France. Alors, très rapidement déjà, pour situer la France de manière visuelle et très très simple, si je compare la rigueur française à la rigueur des autres pays, eh bien je constate qu'en France, on mène une politique de rigueur budgétaire, rétablissement des comptes publics, à travers le change, taux de change élevé, valeur élevée du taux de change. En revanche, pas de rigueur du point de vue des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est important, hein, c'est ce qui vous permet d'emprunter, d'investir, etc. Et puis, rigueur salariale, on va dire, relativement tempérée. Je prends la périphérie européenne. Je dis périphérie parce qu'il faut que j'intègre l'Irlande, hein, quand même. Donc, c'est l'Europe du Sud, mais un peu plus que l'Europe du Sud. Et là, je vois que j'ai vraiment tous les éléments, et ça c'est historique, c'est très rare qu'on ait tous les éléments de la rigueur cumulés sur une zone et sur un même pays. Vous avez à la fois rigueur budgétaire, taux de change très nettement surévalué par rapport au potentiel productif de ces économies. Alors quand taux de change surévalué, ça veut dire compte tenu de ma production, de ma productivité, de mes capacités, est-ce que mon taux de change est au bon niveau ? J'ai des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés puisqu'il y a une défiance terrible vis-à-vis de la dette de ces pays. Donc plus personne ne prête, quand je dis plus personne, aucune institution financière ne prête, sauf à des taux d'intérêt presque usuriers. Donc on est sur des taux d'intérêt plus proches de 10%, parfois de 5% dans ces économies. C'est très élevé, c'est très élevé dans le contexte où vous avez une croissance négative, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et puis vous avez également une rigueur salariale extrêmement forte. Donc là vous avez tous les éléments de la rigueur qui se concentrent sur ces économies. Je prends l'exemple des États-Unis. Là, vous avez quelque chose de très différent, très nettement différent. Vous avez plutôt un pays qui a joué sur la rigueur salariale, ça c'est historique. Les États-Unis, quand ils vont mal, ils jouent sur la rigueur salariale. C'est-à-dire, c'est je casse les salaires, ça casse ma croissance un temps, mais je vais réembaucher derrière. Et vous avez une reprise par l'emploi. Donc ça, c'est, j'allais dire, le Royaume-Uni, les États-Unis n'ont pas fait ni plus ni moins que ce qu'ils ont historiquement fait jusque-là. Vous avez une rigueur budgétaire très modérée. Comparé à ce qui se passe en Europe, on a vraiment décalé les objectifs de ce qu'on appelle consolidation budgétaire. Ça s'est fait à petite dose. On a dramatisé des débats au sein des différentes représentations nationales. Mais en fait, en dépit de toute la dramatisation qu'il y a eu sur les plafonds budgétaires, sur le blocage du Sénat et du Congrès, en fait, ce que l'on voit, c'est que on est dans quelque chose qui est très modéré. Et puis, vous avez un taux de change sous-évalué, donc qui dope l'économie. Vous avez des taux d'intérêt extrêmement faibles. Donc, vous avez une économie qui vit, on va dire, un contexte économique plutôt favorable. Et quand j'ai dit taux d'intérêt, faible, plus que ça. C'est-à-dire que vous avez une banque centrale qui injecte massivement des liquidités, et pas simplement sur les banques, mais directement sur les agents privés. Ça, c'est la grosse différence entre la banque centrale européenne et américaine, c'est que vous avez une banque centrale qui est prête à acheter directement de la dette aux agents privés. Quand je dis agents privés, c'est-à-dire de la dette d'entreprise en particulier et de la dette d'État. Ce que la banque centrale n'avait pas ou n'a pas le droit, alors qu'elle fait maintenant indirectement à travers un fonds, à travers un montage compliqué. Mais là, vous avez plus qu'une politique souple, vous avez carrément une hyper-mobilisation de Ben Bernanke, le président de la Fed, qui a retenu les leçons de 29, qui est d'ailleurs un spécialiste, c'est un enseignant, dont la spécialité était la crise de 29, et qui a sorti, mais vraiment, tous les dispositifs possibles pour éviter le spectre de 29 aux États-Unis. Donc vous voyez, vous avez trois cas extrêmement différents aujourd'hui. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en termes de rigueur. Alors les chiffres de la rigueur. Je vais vous les présenter, bon, je ne peux pas tout couvrir, évidemment, je vais vous les présenter sur 2012-2013. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dès que je parle de milliards, il faut avoir en tête que le PIB de la France, c'est à peu près 2000 milliards. Et dès que j'ai 10 milliards, j'ai un demi-point de PIB. Et un demi-point de PIB prélevé, c'est pratiquement mécaniquement un demi-point de croissance en moins. Voilà comment il faut raisonner. Donc quand vous avez des chiffres et des milliards qui vous tombent à travers l'actualité, raisonnez toujours en ayant en tête ce fameux 10 milliards, c'est à peu près un demi-point de PIB. Alors je prends par exemple ce qui s'est passé autour de la loi de finances de 2013. Première chose, un premier collectif qui est passé un peu inaperçu en juillet, où déjà on a prélevé 10 milliards, un demi-point de PIB. La loi de finances qui décide de faire une consolidation budgétaire, 28 milliards à travers des hausses d'impôts essentiellement. Ils sont concentrés plutôt sur les hauts revenus et plutôt sur les grandes entreprises. Donc 28 milliards, on est presque à 1.2, 1.3 du PIB. Et là-dessus se rajoute ce que là aussi les commentateurs commentent peu, c'est le projet de loi de finances, il ne finance que le gouvernement central, les administrations centrales. Mais vous avez toute la sécurité sociale. Et là encore, 7 milliards supplémentaires prélevés. Je fais le total, 45 milliards, 2,2% du PIB prélevé sur un an. Alors, quand vous savez quel est à peu près le potentiel, quel est le rythme de croissance auquel arrive à croître une économie de type intermédiaire européenne, c'est-à-dire à peu près 1,5-2% en rythme de croisière, vous voyez que vous ne créez aucune chance de croissance dans un tel contexte. Vous avez prélevé l'équivalent du potentiel de croissance d'une économie sur un an. Je prends 2013-2014, alors on ne sait pas encore tout, mais on devine. On sait déjà qu'il va nous manquer 15 milliards en fin d'année, l'État l'a déjà admis, donc il va manquer 15 milliards et on veut quand même toucher la cible des 3%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prélever à nouveau, pas tout à fait un point, mais 0,7-0,8% du PIB. Alors là, en revanche, on a hyper communiqué, on a injecté 20 milliards sur les entreprises. Là, ça a été présenté comme une énorme bouffée d'oxygène. Mais évidemment, il faut financer, donc c'est 20 milliards immédiatement retirés du circuit, puisque vous allez derrière avoir une hausse de TVA, des taxes vertes, à mon avis, ça, on n'est pas prêt de les voir, et des coupes budgétaires, là, on a plus de chances de les voir, mais à mon avis, là aussi, on sous-estime toujours l'inertie des dépenses publiques. Bon, en gros, normalement, l'État va tenter de financer ce 20 milliards, il aura du mal. Et puis, à nouveau, en 2013-2014, il est très probable que la croissance soit en dessous de son rythme normal, et donc les rentrées fiscales ne seront pas au niveau attendu. Et donc vous allez probablement perdre autour de 5 milliards. On va dire, si la croissance est autour de 1-1,5%, il vous manquera 5 milliards. J'additionne tout ça, nouveau 20 milliards, vous allez reprélever. Alors déjà, après avoir prélevé l'équivalent d'une année de croissance, vous prélevez. Déjà, on a en tête qu'il y a à peu près 1% qui vont partir. Et vous voyez déjà, on a un chômage qui est au-dessus de 10%. On a déjà des entreprises qui sont à l'agonie du point de vue de la trésorerie. Donc à chaque fois, vous enlisez la situation, puisque ceux qui ont résisté vont-ils résister un an de plus hein. C'est toujours la question qu'il faut se poser. La rigueur, il y a à la fois son intensité puis sa durée. Si je repère ça, la rigueur française par rapport aux autres pays, alors ne vous affolez pas sur ce graphique. C'est un graphique, je le commente très simplement, on est entre 2009-2013. Je regarde, je vous avais vu le petit calcul que j'ai fait, c'est-à-dire on a prélevé 2% par-ci, 1% par-là. Là, je regarde maintenant en cumulé, entre 2009-2013, on en est où? Eh bien, on a prélevé 5,6% en 4 ans en France, c'est-à-dire 1,5 à peu près par an depuis 4 ans. Alors, on a une croissance zéro. Et à nouveau une croissance zéro, voire légèrement négative qui s'installe, vous voyez qu'il n'y a pas trop de mystère. On a prélevé à peu près hein, l'équivalent de la croissance chaque année depuis 4 ans. Je regarde les voisins directs. Royaume-Uni, Italie. Alors ça, on ne l'a pas toujours en tête. C'est-à-dire que la rigueur française, qui est supposée modérée, c'est quand même la rigueur de Monsieur Monti. C'est la rigueur des Britanniques. Et vous savez que le Royaume-Uni, c'est le pays du sang et des larmes. C'est-à-dire que quand il y a des crises, hein, on l'affronte durement. Donc la rigueur française est budgétaire. On peut dire que c'est une rigueur de haut niveau, de très forte intensité. Elle n'est pas modérée, contrairement à ce qu'on peut entendre. Et vous voyez qu'il n'y a que l'Islande, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et la Grèce. Alors la Grèce avec une ponction, vous voyez un peu la ponction sur la Grèce, hein, 15% du produit intérieur brut. Et comme par hasard, il manque combien de croissance? Ben 20%. 20% de perte de croissance. Donc vous avez pratiquement les politiques publiques qui déterminent l'essentiel du rythme de croissance de manière quasi mécanique, j'allais dire presque sans théorie économique. Hein. Vous retirez ce que l'on peut attendre d'une croissance normale et vous avez à peu près le résultat de la croissance des différents pays. Regardez l'Allemagne à côté. Bien, l'Allemagne, elle, est pratiquement dans ce qu'on appelle la neutralité budgétaire, c'est-à-dire il ne se passe rien. Donc vous voyez que dans un espace commun, vous avez des pays dans lesquels les agents privés passent la crise de manière en rythme de croisière, hein, en routine, et d'autres sur lesquels vous avez une ponction considérable et d'autres carrément inimaginables. Alors je couvre les différentes dimensions maintenant. Toujours sur cette zone euro, regardez un petit peu le taux de change. Le taux de change, alors là aussi, regardez juste la courbe comme ça, parce que je ne vais pas vous dire la technique qu'il y a derrière. C'est le taux de change moyen vis-à-vis de toutes les monnaies, d'un panier de monnaies. Mais c'est juste pour vous donner l'indicateur le plus synthétique, parce que je ne vais pas vous faire le taux de change de l'euro par rapport au dollar, au yen, etc., au yuan. Donc là, j'ai pris le taux de change de l'euro. Ben, vous voyez que l'euro, eh bien, il est abonné à des niveaux élevés. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis sur la même période. Et vous voyez qu'au pire, là, aujourd'hui, on est rentré dans une récession assez lourde à nouveau, puisque l'économie a rechuté. Regardez l'euro qui remonte. C'est-à-dire on a des évolutions qui sont... Donc ça, c'est un facteur aggravant. Quoi. Le coût du travail, je vous le disais, bon, il reste positif quand même. Il reste positif, mais quand même en net ralentissement. On est sur des rythmes de 2%. Et là, je parle du coût du travail pour ceux qui travaillent. Donc ce qui fait que si je prends maintenant l'ensemble de la masse salariale, c'est-à-dire si je multiplie ça par l'emploi, qui lui baisse, évidemment, j'arrive maintenant sur un... Et si je retire l'inflation, eh bien, je suis maintenant sur un pouvoir d'achat qui évolue en négatif. Donc je n'ai peut-être pas de la modération, enfin de la rigueur salariale extrêmement violente, mais comme derrière l'emploi décroît, la masse des salaires versés dans l'économie, elle, baisse en tout cas une fois que je tiens compte du fait que l'inflation a augmenté. Hein, je suis maintenant sur des rythmes de baisse de 0,5% par an. Donc voilà pour les chiffres de la croissance. Donc vous avez vu, le budget, lui, prélève à peu près le potentiel de croissance tous les ans. À cela, je rajoute un taux de change surévalué. À cela, je rajoute une modération salariale modérée, mais qui conduit le pouvoir d'achat en négatif. Et je n'ai que cet élément qui est absolument incroyable, c'est le taux d'intérêt. C'est celui qui sauve l'économie, je vais vous dire très sincèrement. Ce truc-là, c'est totalement en dehors de toutes les régularités historiques. C'est un taux d'intérêt à long terme. Là aussi, on ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est le taux qui, normalement, doit être le plus élevé. C'est celui qui finance les agents qui investissent à long terme, qui financent l'État, etc. Donc là, aujourd'hui, on est revenu autour de 2%. On est presque, on dit des taux zéro, parce qu'en fait, une fois qu'on tient compte de l'inflation, s'endetter ne coûte presque rien. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a deux catégories d'agents en Europe. Il y a ceux que l'on fuit parce qu'ils sont considérés comme insolvables. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas trop bons élèves, comme la France, et donc qui peuvent offrir des rendements un tout petit peu positifs encore. Et là, les investisseurs se ruent dessus, parce qu'aujourd'hui, ils cherchent désespérément des rendements positifs. Vous imaginez, ils ont promis des rendements à 4 ou 5% à leur clientèle, sur leur assurance vie, sur ceci, sur cela, et il n'y a plus rien qui rapporte 4 ou 5%. Les marchés d'actions, bon, depuis quelque temps, fleurissent, mais pendant des années, ils étaient moroses. Vous avez tout un paquet d'obligations qui ont été décotées, etc. Vous avez aujourd'hui, l'Allemagne emprunte à taux négatif. C'est-à-dire que les investisseurs sont tellement en déroute qu'ils sont prêts à avoir, pour mettre à l'abri leur argent, ils préfèrent perdre 0,3, 0,5% par an, hein, plutôt que de risquer de perdre 20% sur d'autres types d'actifs. Donc, et vous avez des pays bénis comme la France qui, heureusement, ne font pas trop bien. C'est-à-dire qu'ils ont encore un déficit trop élevé. Et donc, vous voyez, il y a une situation un peu marrante, c'est qu'aujourd'hui, on annonce qu'on n'est pas à 3%, on vous annonce qu'un ministre des Finances a démissionné, on vous annonce d'assez mauvaises nouvelles pour un pays qui serait à l'agonie et au bord de la faillite. Et puis, vous voyez, ces taux qui continuent à baisser. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est d'excellentes nouvelles pour les investisseurs. Ils se disent, enfin, un pays qui peut encore offrir des rendements positifs et dont le risque de faillite est quand même extrêmement faible pour l'instant. Donc voilà à peu près le tableau de la rigueur aujourd'hui. Vous avez cette chose-là qui fait que vous avez ce qu'on appelle dans une économie des morts vivants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de demande. Mais au taux où l'on prête aujourd'hui, vous arrivez à survivre. Vous pouvez financer parfois de la trésorerie. Donc on a employé le mot mort vivant pour les banques japonaises à l'époque de la crise japonaise. Mais ça s'applique pas mal aux entreprises. Elles vivent une drôle de situation où elles devraient être mortes dans d'autres circonstances. Mais grâce à ces taux d'intérêt extrêmement faibles, elles arrivent à passer le cap. Alors pourquoi la rigueur maintenant ? Alors là, ne vous affolez pas, je ne vais pas rentrer dans le détail des équations, mais je voulais juste faire passer un message. Bon, la rigueur, c'est d'abord la soutenabilité. Alors c'est pas rien la soutenabilité, je vous ai dit, il y a un risque de boule de neige. Alors la seule chose qu'il faut savoir, c'est pas l'équation que j'ai marquée là, c'est que ce qui va créer le risque de boule de neige, c'est un écart positif entre le taux d'intérêt et le taux de croissance. Ce que dit la théorie, et je n'ai pas le temps de le démontrer, c'est que le taux d'intérêt qui va le déficit qui va stabiliser, le solde public qui va stabiliser la dette, hein, il est égal à ça, c'est-à-dire il est égal à l'écart entre le taux d'intérêt, le taux de croissance et le niveau de la dette sur le PIB. Bon, le niveau de la dette sur le PIB, on va dire c'est un ratio de 1. Aujourd'hui, à peu près dans tous les pays, on est à 90 ou 80. Et donc, pour déterminer la cible de déficit que je dois courir, eh bien, j'utilise l'écart entre le taux d'intérêt et le taux de croissance. Alors, pour des pays aujourd'hui qui ont des taux d'intérêt à 15% ou à 10% et un taux de croissance nul ou négatif, ben vous voyez, il faudrait un excédent de 15 ou 20% et donc il est inatteignable. Bon, pour un pays comme la France, 2% de taux d'intérêt et un taux de croissance nul, bon, ça va encore à peu près. On n'est pas sur un rythme de boule de neige, mais avec des taux d'intérêt qui sont quand même à un niveau atypiquement bas. C'est-à-dire si demain, pour je ne sais quelle raison, les investisseurs s'enfuient, vous pouvez du jour au lendemain basculer dans un... Vous avez cette épée de Damoclès. Cette équation, je vous l'ai mise, je n'avais pas envie, mais en même temps, je suis bien obligé parce que c'est elle qui dicte tout aujourd'hui. C'est cette peur que demain, les taux d'intérêt deviennent les taux d'intérêt espagnols, grecs, etc., qui est en train de conditionner tous les arbitrages de politique aujourd'hui, depuis 2012, 2013, etc. C'est là-dessus que s'est construite la politique. C'est la peur que demain, on ait un taux d'intérêt qui soit totalement incompatible avec notre potentiel de croissance. Et là, on file dans un... Quel que soit notre consentement à payer l'impôt, on sort d'une situation normale. Deuxième objectif derrière la rigueur, on ne le dit pas suffisamment, c'est l'objectif de compétitivité. C'est quoi? C'est réduire le poids de la fiscalité parce qu'on pense que la fiscalité est trop élevée et qu'elle nuit à l'efficacité et à notre et qu'elle pénalise nos parts de marché à l'exportation. Nos entreprises paieraient trop d'impôts, trop de charges sociales par rapport à leurs concurrents, en particulier ceux qui font de la concurrence fiscale. Donc je vous rappelle, par exemple, en France, on a à peu près, quand je tiens compte de tout, on a par exemple un impôt sur les sociétés qui est de 36%. Il est de 15% en Allemagne, il est de 22% aujourd'hui au Royaume-Uni. Donc chacun fait une petite course par le bas. Et puis vous avez aussi la compétitivité se gagne par la modération salariale. Voilà à peu près le bréviaire qui est derrière. Hein, c'est je veux éviter la boule de neige, l'effet boule de neige, et je veux rétablir ma compétitivité en baissant éventuellement la fiscalité. Oh, d'ailleurs, on n'en prend pas le cas parce qu'on l'augmente plutôt, mais surtout en modérant les coûts salariaux. Le modèle qui est derrière, venons-en au modèle. En fait, c'est une représentation de l'économie qui est très polarisée, qui est tournée sur l'offre exclusivement. Et c'est quoi l'offre pour un économiste? C'est quelque chose qui se construit à partir d'une fonction de production, mais là, le mot fonction déjà fait peur, c'est pas grave. C'est très simple, c'est dire je produis avec un volume de travail, c'est-à-dire de l'emploi et des heures. Je produis avec un stock de capital, je produis avec de l'énergie et je produis avec de l'innovation. Ça, ça fait mon volume. Plus j'ai de travail, plus j'ai de capital, plus je mets d'énergie dans le système et plus j'ai de productivité liée au progrès technique et plus ma croissance est élevée. Je définis l'économie uniquement à travers ce versant. Alors, qu'est-ce que je vais trouver en regardant uniquement ce pôle de l'économie? Cette vision très technique, hein, vous voyez, on a presque une vision d'ingénieur, hein, c'est je combine des facteurs de production. Eh bien, qu'est-ce que je vais trouver? Si j'augmente mes facteurs, eh bien, tout, c'est mieux. Et comment je fais pour augmenter mes facteurs? Ben, je dois diminuer leurs coûts. Si je baisse le coût du travail, si j'augmente le temps de travail, si je baisse le prix du capital, donc les taux d'intérêt, c'est le prix qu'on va payer si le capital se paye par de l'endettement. Donc si vos taux d'intérêt sont faibles, ça vous fait un accès au capital qui est moins cher. Donc si les taux d'intérêt sont faibles, si les prix d'énergie sont faibles, ou si je découvre des gaz de schiste à plus bas, évidemment, tout ça est plutôt favorable. Et évidemment, le progrès technique dans cette approche, c'est plutôt un résidu. C'est bon. Et si je considère qu'il y a une composante inexpliquée de ma croissance qui relève du génie humain et de la combinaison de tout ça, eh bien voilà. Donc vous voyez, en fait, on se focalise sur les trois premiers termes et essentiellement. D'ailleurs, je dis bien les trois premiers parce que c'est ça. Hein, c'est aujourd'hui l'élément énergétique qui est assez important. Et donc, évidemment, à partir de là, à partir de cette vision tournée sur l'offre. En considérant que si j'ai augmenté mon volume, alors j'ai augmenté mes revenus, et si j'ai augmenté mes revenus, ben j'ai quelque chose qui s'appelle la loi de C, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire ce qui est produit, ce qui est distribué sous forme de revenus est consommé automatiquement, tout ça s'équilibre tout seul. Et bien voilà, donc je vais me focaliser sur cette vision technique de la production. Et donc, je mène toute ma politique en disant, plus le coût de mes facteurs est faible, et mieux c'est, j'aurai plus de quantité. Il y a un deuxième pilier aussi dans cette approche, qui est de dire, c'est ce qu'on appelle la neutralité ricardienne, elle est très présente. Elle a dû vous être présentée dans une autre session, mais elle est importante. C'est qu'on considère que les ménages, lorsqu'on leur augmente la dette, ils savent quelque part que demain, on va leur augmenter les impôts. Et donc, si vous diminuez la dette publique, contrairement à ce que diraient certains économistes keynésiens, si vous diminuez la dette publique, les ménages se disent ça nous fera moins d'impôts pour demain. Et donc, ça ne pénalise pas leur consommation. Eux, ils vont au contraire maintenir leur consommation ou ça va accroître leur confiance. Donc, armé de ces deux préceptes, un économiste libéral, néolibéral, classique, hein, vous avez plusieurs exceptions, mais en tout cas appartenant à cette mouvance de l'offre, va vous dire, je baisse le prix des facteurs et je sais que les ménages, les agents sont relativement, ont des capacités d'anticipation et que ça va permettre de maintenir la croissance. Alors, peut-elle fonctionner cette thérapie? Ben, je vais vous dire à peu près ce qui sous-tend l'approche menée en France. C'est d'abord de dire, d'accord, on sait, tout le monde sait que c'est pas bien la rigueur quand même, surtout quand c'est mené par des socialistes. Mais on va le faire très, très brièvement, très concentré, très court. Voilà, il vaut mieux faire vite, faire mal, sur une petite durée. Donc ça a été un peu la doctrine hein, de 2013, on fait une loi de finances un peu violente, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Et puis, attention, j'ai pas oublié quand même, je suis un social-libéral, donc je fais un petit choc de compétitivité. Je ne veux pas affaiblir, je sais quand même que si je casse la demande, je vais affaiblir mes entreprises, mais je vais leur offrir des débouchés à l'extérieur. Je fais donc un choc de compétitivité. Je baisse les cotisations sociales au même moment. Donc ça, c'est sur le budget 2014. Et puis, comme les autres ne sont pas aussi bêtes que moi, eux, il y aura une reprise probablement. Donc États-Unis, pays émergents, tout ça, on sait que la moitié de la croissance se passe en dehors. Donc j'ai quand même un petit peu joué sur la bouffée d'oxygène. Donc je ne vais pas faire l'erreur de 81. Je mène ma rigueur vite, fort. Je ne vais pas faire de la croissance, je ne vais pas faire une reprise pour les Allemands, ce serait bête, une relance pour les Allemands ou pour les autres pays européens. Donc je fais de la rigueur, moi aussi, je ne commets pas l'erreur de 81 de repartir tout seul et d'inonder les autres pays de ma demande et finalement d'en récupérer très peu. Et puis, j'attends la reprise extra-européenne. Alors, on peut le dire tout de suite. La reprise extra-européenne, le danger, c'est que l'Europe... elle est quand même très mal partie et que c'est la croissance mondiale qui est menacée par, aujourd'hui, le plongeon européen. C'est-à-dire que c'est bien d'attendre la reprise des autres, mais il ne faut pas faire chuter les autres. Et là, aujourd'hui, ne sous-estimons pas le poids de l'économie européenne. On pleure souvent en disant la Chine, c'est devenu un mastodonte, les États-Unis sont un mastodonte. Non, les États-Unis représentent un peu moins du poids de l'Europe et la Chine, c'est la moitié du poids de l'Europe. Donc oui, l'Europe, si elle n'a pas une... si elle ne porte pas la croissance, elle est en mesure de faire basculer l'ensemble de la croissance mondiale. Alors là aussi, on a mené une politique de rigueur, mais pas de manière totalement aveugle. Encore une fois, l'histoire a porté ses fruits. Donc on a quand même concentré l'impôt sur les hauts revenus, plutôt, hein, la fameuse tranche 75, etc. Vous avez vu que ça fait un peu long feu. Mais quand même, on va dire que les deux tiers, quand même, porté sur ce qu'on appelle le dernier décile, les derniers 10% les plus riches. Pareil du côté des entreprises, il y a eu 10 milliards ponctionnés sur les ménages, c'était plutôt les 10% les plus riches. Il y a eu 10 milliards prélevés sur les entreprises, plutôt les grandes entreprises, on a essayé de préserver les PME. Et là, quand vous faites ça, ben, vous vous dites que normalement, si j'ai un patrimoine, si je suis riche, si j'appartiens aux 10%, même si j'ai des impôts plus élevés, j'ai quand même une capacité d'épargne, je vais ponctionner dessus, ça ne va pas affecter ma consommation. Ça, c'était un des grands enseignements de Keynes, se dire taper au moins en haut de l'échelle des salaires, parce qu'en dessous, c'est problématique. Si vous êtes pauvre, vous n'avez aucun choix. Le jour où on vous pique du revenu, vous êtes obligé d'ajuster votre consommation, vous n'avez pas d'amortisseur. La deuxième chose, c'est qu'on a essayé de justement, donc du coup, de ne pas trop taper sur la consommation. Or, la TVA, il y a beaucoup d'impôts aujourd'hui en France qui sont assis sur la consommation. Donc, on a essayé de préserver la consommation. Et puis, on essaye d'appartenir au groupe des pays à faible taux d'intérêt. Donc, la doctrine qu'il y a derrière, c'est de dire, je fais pas une politique de rigueur à l'aveugle, je tape sur les hauts revenus, je préserve quand même la consommation au maximum, et je vais faire partie des heureux élus à travers le monde qui aujourd'hui bénéficient de taux d'intérêt incroyablement bas, et ça va aider mon économie. Alors, c'est ce que, d'ailleurs, le ministre des Finances, en son temps, avait appelé une, je crois, compétitivité financière ou quelque chose comme ça, enfin, par les taux d'intérêt. Rétablir la compétitivité par les taux d'intérêt. Et effectivement, donc, pour donner un tout petit peu de crédit à tout ça, hein, vous regardez un petit peu ce que donnent les taux d'intérêt entre le Sud et l'Allemagne, et regardez où se situe la France, c'est la ligne en bleu. Hein, vous voyez, effectivement, nous sommes du bon côté de la barre. Nous sommes du bon côté de la barre, et cette chose-là donc permet éventuellement d'encaisser une rigueur, en attendant de meilleurs jours et en attendant surtout le miracle venu des pays émergents, venu également des États-Unis. Mais il y a des effets secondaires dans la rigueur. Le principal effet secondaire, là il faut un tout petit peu d'attention, mais c'est très simple. Le principal effet secondaire, c'est que lorsque vous voulez réduire votre déficit de 1%, vous allez commencer à taper sur les dépenses. Vous allez diminuer, enfin les dépenses ou augmenter les recettes de 1% du PIB. L'ennui, c'est que quand je ponctionne 1%, ça diminue. Donc c'est la deuxième, c'est le point vert. Ça diminue mon produit intérieur brut de 1% également. Je fais une ponction. Et comme ça diminue mon produit intérieur brut, ça diminue mes recettes, qui représentent la moitié du PIB. Donc je perds 1,5%. Du coup, je suis obligé d'en remettre une louche. 0,5%. Etc. Et puis à nouveau, donc je perds 0,5 point de croissance, qui me fait perdre 0,25. Je suis obligé d'en remettre une louche. Alors ça s'appelle des suites géométriques. Hein, pour tous ceux qui sont au lycée, qui s'en souviennent. Et au total, ça fait quoi? Ça fait 2%. C'est-à-dire que quand je veux réduire de 1%, de 1 point de PIB mon déficit, eh bien, je vais être obligé de diminuer de 2 points ou d'augmenter, de faire un prélèvement sur l'économie de 2%. Ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on oublie trop souvent Et donc, nos gouvernements et nos administrations fiscales continuent à raisonner avec l'idée que si quand je dois diminuer de 1 point mon déficit, je prélève 1 point. Mais non. À chaque fois, on est obligé de remettre une dose. Et vous voyez que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, je passe très vite. Je passe très vite parce que je vous ai dit la sensibilité de la croissance 1 pour 1. Même si j'ai une sensibilité faible de la croissance, on va dire que même si je prélève 1 point, ma croissance résiste, je ne perds qu'un demi-point de croissance, eh bien je vais quand même être obligé de faire un effort supérieur de 1,3% du PIB. Et je vais perdre 0,7 point de croissance. Si mon multiplicateur est de 1, je retrouve le chiffre 2. Si mon multiplicateur est de 1,3, c'est-à-dire si pour 1 point de prélèvement, je perds 1,3% de croissance, alors je vais être obligé d'engager 2,9% de mon PIB en économie et je vais perdre 3,7% de croissance. Ce que je veux montrer par là, c'est que plus votre croissance est sensible à la politique budgétaire et plus vous rentrez dans une spirale infernale. Et 1,3, c'est pas élevé. C'est une hypothèse qui reste très raisonnable. Non seulement elle est raisonnable, mais ce que nous disent tous les économistes qui ont fait des études quantitatives, c'est que quand on est en récession, en période fragile, eh bien on est plutôt de ce côté-là. Et surtout, quand tout le monde fait de la rigueur dans un même territoire, on est plutôt à 1,3. Ce qui veut dire aujourd'hui, pour baisser de 1 point mon déficit, je dois prélever 2,9% sur mon PIB et je vais perdre 3,7% de croissance. 3,7, je le dis pour ceux qui se demandent pourquoi c'est 3,7, vous utilisez le facteur 1,3. J'ai prélevé 2,9 et multiplié par 1,3, ça vous dit la perte de croissance. On est dans ce cercle infernal-là. Il est extrêmement dangereux. Donc ça, c'est le cercle vicieux de la rigueur. On le vit. Puis vous avez l'autre côté qui est également extrêmement problématique. L'autre côté, c'est que lorsque vous faites de la rigueur, eh bien vous vous attaquez à la base productive. Vous l'affaiblissez, vous la nécrosez. D'abord, ce sont les PME qui sont les plus touchées, parce que ce sont elles qui ont le moins d'assises en termes de trésorerie, qui ont les moins bons rapports avec les banques. Ensuite, c'est la création d'entreprises qui s'effondre très rapidement. Aujourd'hui, on a apparemment des créations d'entreprises, mais c'est des auto-entrepreneurs, ce sont souvent des chômeurs qui se sauvent à travers des statuts qui sont très peu rémunérateurs. Et vous détruisez des capacités, et en première ligne, ce n'est pas le beau schéma schumpeterien où ce sont les meilleurs qui s'affirment en crise, ce sont toujours les plus innovants, ceux qui ont pris le plus de risques, qui se cassent la gueule en premier. Les gros groupes, les gros paquebots, les grands groupes mondialisés, ils passent les crises. Donc ce sont en fait des éléments à la fois petits mais extrêmement féconds, extrêmement importants pour l'économie qui se cassent la figure. Et vous arrivez donc à un résultat, c'est que la compétitivité risque d'être sacrifiée. Si je prends le cas européen aujourd'hui, qu'est-ce qu'on le voit? C'est qu'on a un phénomène de polarisation en Europe sur l'Allemagne et ce qu'on appelle son hinterland, c'est-à-dire tous les pays de sa base arrière dans lesquels elle sous-traite. L'industrie se concentre sur ce pays qui a encore un potentiel budgétaire, qui peut bénéficier des coûts faibles de son hinterland. Et donc, vous avez là près de un quart de la production qui reste industrielle et vous avez l'industrie qui déserte l'ensemble des autres pays, y compris la France. Tout ça est aggravé par le fait que menant une politique de rigueur, ça déstabilise la rentabilité des boîtes, ça affaiblit les efforts de R&D, et donc vous avez une sorte d'accumulation des avantages sur le même pays. C'est-à-dire qu'au sein de la zone, au lieu de converger, cette rigueur fait que c'est le pays qui est aujourd'hui en plein centre de l'Europe, qui a le meilleur accès au marché, qui a en plus la possibilité de sous-traiter sur l'Est, avec des coûts extrêmement faibles, une fiscalité très faible également à l'Est. C'est ce pays qui est à la fois central, qui peut importer à bas prix, qui n'a pas de rigueur budgétaire, qui en plus a le meilleur taux de rentabilité de ses entreprises et qui aujourd'hui a un des plus forts budgets de R&D. Donc rien ne joue en force de rappel. C'est-à-dire quand vous faites de la rigueur, au lieu d'être salvateur, vous avez plutôt un facteur aggravant. Alors, alternative à la rigueur. Et je terminerai là-dessus. Existe-t-il? Oui. Alors, il y a la vision keynésienne, mais vous verrez, c'est pas là-dessus que je veux aller. Vous la connaissez, je la dis en grande ligne. Vous avez vu qu'il y a la vision tournée vers l'offre de la croissance. L'offre, c'est la vision de l'ingénieur. Je mets du capital, je mets du travail, je mets du volume, je mets de la durée du travail, travailler plus pour gagner plus, etc. C'est tout ce que vous avez en tête dans la moindre discussion du Café du Commerce. De l'autre côté, vous avez la vision plus en forme de circuit. La production, c'est aussi la capacité d'écouler sa production. C'est de la consommation, c'est de l'investissement, c'est des dépenses publiques. C'est une égalité. Ce qui est produit est consommé, investi. Et prenant conscience que je suis dans un circuit, un keynésien va vous dire, en période de fort chômage et de récession, je dois essayer de maintenir à tout prix mes composantes de la demande. Si ma consommation privée s'écroule ou mon investissement en logement s'écroule parce que je me suis surendetté du côté des agents privés, l'État doit prendre le relais. Parce que s'il ne prend pas le relais, je détruis des capacités de production de manière irréversible. Donc ça, c'est la vision, vous la connaissez tous, hein, c'est le contre-courant à ceux qui voient les choses à travers l'offre. L'investissement, quel rôle a-t-il ? Eh bien, il est fonction de la demande. Vous êtes conscient que les entreprises investissent si elles ont des perspectives de demande. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'État a pour responsabilité de maintenir la demande. Et puis, vous jouez aussi sur les taux d'intérêt, parce que vous savez aussi que vous investissez si le taux d'intérêt est faible. Alors, la seule chose qu'on a récupérée aujourd'hui de l'approche keynésienne, c'est ça, hein, c'est le fait d'essayer de rester dans un taux d'intérêt extrêmement faible. Et surtout, vous craignez plus que tout quelque chose qui est arrivé en 29, la déflation. La déflation, c'est l'abomination en économie. C'est le truc qui ne doit pas, surtout pas arriver. C'est le moment, d'ailleurs, on est content de nos taux d'intérêt faibles, mais ce que Keynes appelle la trappe à liquidité, c'est le moment où les taux d'intérêt sont tellement faibles que tout le monde détient des liquidités, il n'y a plus intérêt à détenir d'autres types d'actifs. Et à ce moment-là, vous êtes recroquevillé sur votre liquidité, vous n'investissez plus parce que les taux d'intérêt sont tellement faibles que vous savez qu'à la moindre hausse de taux d'intérêt, les prix d'actifs vont se casser la gueule partout. Donc la seule chose que vous pouvez anticiper, c'est que peut-être demain, les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc vous restez figé sur votre liquidité et votre inflation diminue, vous n'avez plus de projet, vous restez cantonné sur votre liquidité et surtout, comme vous anticipez que le prix demain va baisser, il n'est jamais intéressant de consommer aujourd'hui, mais vous attendez demain, puisque demain sera moins cher. Et ça, c'est le spectre noir de l'économie. Si vous rentrez en déflation, tout est perdu. C'est-à-dire que le jour où vous rentrez dans cette spirale-là, alors vous êtes content, vous avez des taux d'intérêt nuls, mais sauf que l'inflation est négative, et là, tout s'enfonce. Et vous ne pouvez... Il est extrêmement dur d'intervertir ça. Aujourd'hui, le patron de la Banque centrale américaine, il vit avec cette angoisse-là. C'est-à-dire il a renversé la problématique. C'est est-ce que je suis crédible sur mon objectif de faire de l'inflation et non pas de défaire l'inflation ? Parce qu'il sait très bien que si demain le monde rentre dans cette spirale-là, tout est perdu. C'est-à-dire on vivra ce qu'on appelle la grande déflation. Rien ne pourra l'arrêter et tout le monde va plonger ensemble. Autre courant quand même qui rebascule, qui, par rapport à la vision keynésienne, qui a quelque chose d'un petit peu sommaire, en tout cas, non pas chez Keynes, mais en tout cas dans sa vulgate et dans son application politique. Chez Keynes, il faut faire de la dépense et on s'en fout un peu du contenu de la dépense. Et puis, vous avez un courant très intéressant autour de la croissance endogène qui a repris l'offre, donc versant offre à nouveau, mais qui vous redécompose un peu autrement la croissance. Il vous dit c'est quoi l'offre aujourd'hui ? C'est, bien sûr, c'est du capital, c'est de l'emploi. Et puis, il n'y a pas ce résidu de progrès technique qu'on n'explique pas. Non, c'est quoi ? C'est du capital physique, c'est-à-dire des machines et des hommes, et du capital humain, de l'intelligence, du savoir-faire, de la compétence, des infrastructures collectives, du réseau, du haut débit, etc. Donc tout ce qui peut renforcer la connexion, à la fois les transports, mais aujourd'hui, bien sûr, tout ce qui relève de l'économie numérique, et de la recherche. Quels sont les véritables facteurs ? Ce sont ces facteurs qu'on appelle très porteurs d'externalité. Aucune entreprise, individuellement, n'a intérêt à investir là-dedans. Pourquoi une entreprise, au nom de son propre marché, de sa croissance, investirait dans la formation ? Ce n'est pas son intérêt. Pourquoi investirait-elle dans des réseaux qui connectent l'ensemble du monde et des régions, etc. Ce n'est pas son intérêt. En revanche, c'est l'intérêt collectif. Il n'y a que l'État qui est en mesure de penser cette rentabilité-là. Et donc, déplaçant cette description des facteurs de la croissance, vous voyez que vous rentrez dans une problématique où la croissance qualitative se gagne par de l'investissement public. Et donc, il ne s'agit pas de faire de l'investissement ou de la dépense indifférenciée. Il est très important de porter son effort sur ce type d'investissement. Ça veut dire quoi aujourd'hui ? Que la seule chose que vous pouvez faire dans une période de crise où tout se polarise sur l'Allemagne, l'industrie se polarise, où vous voyez votre base industrielle se réduire, s'atrophier de plus en plus, où vous voyez la demande qui se dérobe également parce que les revenus ne sont plus là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est éventuellement vous défocalisez de l'objectif de désendettement ou de baisse du déficit momentanément et de vous dire je dois absolument investir sur mes facteurs immatériels de l'offre. Je mets ça comme priorité, ça veut dire politique industrielle, ce qui était un gros mot il y a encore quelques années mais qui est dans la bouche de tous les décideurs aujourd'hui, sauf qu'on ne sait plus faire de la politique industrielle. Alors pour pas seulement vous donner un mot politique industrielle, je vais vous décrire ce que pourrait être une politique industrielle. Par exemple, au niveau européen, puisqu'on est en panne de projet européen. Imaginons une politique énergétique au niveau européen. Et vous allez voir ce que serait une politique énergétique au niveau européen. Aujourd'hui, en France, on va vous dire il faut faire 20% d'énergie renouvelable, tout le monde doit faire son petit lot, et tous les pays européens doivent faire 20%. Bon, imaginons maintenant que nous décidions de faire un mix énergétique européen. Non plus de faire notre mix pays par pays, de manière besogneuse et scolaire, avec des cibles identiques pour tout le monde, mais bon, on finit par se dire... Après tout, la France n'est pas une zone sismique, elle a des ingénieurs, elle a des grandes écoles qui ont... et des années d'investissement dans le nucléaire. Bon, ok, on va admettre que le nucléaire, il y a un savoir-faire français, peut-être un risque moindre qu'il soit en France qu'en Italie, par exemple, qui est sismique, ou d'autres parties. Mais essayons quand même d'obtenir nos cibles de développement durable et d'énergie renouvelable. Où est-ce que je peux placer les énergies renouvelables en Europe? Ben, ça tombe bien, c'est plutôt dans le sud et dans la périphérie de l'Europe. Pourquoi donc ne pas concevoir ce mix énergétique en ayant des grands projets d'investissement énergétique sur les énergies renouvelables en périphérie, sur des pays qui ont potentiellement des capacités d'autonomie de 70 à 80% sur les énergies renouvelables. Vous voyez que lorsque vous reprenez une optique thématique, vous allez non seulement avoir un projet de développement, mais vous allez en plus avoir des transferts sur les pays en difficulté. Donc on peut avoir d'autres exemples de ce type. Mais c'est là-dessus, évidemment... à mes yeux, que se situe l'issue de la crise. C'est-à-dire, c'est de reconcevoir une politique, non pas de l'offre, mais une politique industrielle, non pas à l'ancienne, pas avec le commissariat général du plan, etc., mais véritablement avec de grands projets transversaux à très forte externalité. Et nous avons donc les théories de la croissance endogène pour ça. Donc, en conclusion, après la rigueur, ben vous voyez que, et c'est, je le dis en un mot, on a eu la crise des subprimes 2007-2010 avec... de la relance budgétaire, parce qu'on voulait pas, on a compris qu'il fallait éviter la crise de 29. L'État s'étant substitué au créditeur privé, la dette a été transférée sur l'État. Il s'est retrouvé endetté, voire surendetté. Que fait-il aujourd'hui? Il fait de la restriction budgétaire. En contrepartie, les banques centrales essayent de compenser. Mais si l'on continue dans cette voie et sans aucun projet industriel et sans aucun projet productif, qu'est-ce qui va se passer demain? Bien, vous avez un moment où les banques centrales, elles aussi, vont commencer à avoir des bilans qui explosent. Et il va arriver une actualité qui sera, les banques centrales, il faudra peut-être qu'aussi un jour elles rétropédalent. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir ce qu'on appelle une crise obligataire, les taux d'intérêt vont remonter. Vous, peut-être que si elles ne le font pas, vous rentrez en déflation. Vous allez donc avoir une crise par palier. C'est-à-dire qu'on n'échappera pas à ce scénario où vous n'avez vécu qu'un des premiers épisodes. On a retardé la grande déflation, mais on y va. Doucement, mais sûrement. Plus doucement qu'en 29, mais sûrement. Voilà la raison pour laquelle il faut véritablement aujourd'hui reprendre la problématique à travers la croissance et la problématique industrielle, qui est la seule issue, à mes yeux, pour aborder cette question de la croissance et des politiques. Merci.
Merci, Olivier Passé. Merci beaucoup pour cette conférence à la fois très claire et aussi très dense. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'angoisses, quelques propositions aussi, qui à mon avis méritent pas mal de discussions et sûrement beaucoup de questions. C'est une actualité forte. Donc voilà, la parole est à vous. On attend vos questions pour poursuivre le débat.
Bonsoir, merci pour cet exposé. J'ai une question très très simple et pratique. Le point d'interrogation rouge, c'est quand, d'après vous?
Il a failli être il y a un mois, lorsque vous avez eu quelques petites dissensions dans la Fed. Donc certains ont émis des voix et on a vu tout de suite les taux. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse du risque d'explosion de la bulle obligataire. Des taux d'intérêt très faibles, ça veut dire que vous avez des obligations qui ont des niveaux extrêmement élevés. Et il a suffi d'un tout petit débat qui a transpiré dans l'actualité pour que ce risque surgisse. Et on a vu tout d'un coup sur la croissance américaine une nouvelle épée de Damoclès qui était ce risque de... Et donc, on peut y être. On peut y être surtout, alors je vais vous dire, on peut y être assez rapidement. On peut y être assez rapidement si, on va dire, l'Europe ne fait rien, continue à rester dans ses dissensions, et que vous avez une reprise qui ne joue que sur ses deux pieds, américains émergents, avec une petite reprise de l'inflation, des petits débuts de surchauffe, mais très locaux, et vous verrez très vite ce taux d'intérêt qui est à des niveaux atypiques se normaliser, et des taux qui se normalisent aujourd'hui, c'est tout d'un coup un truc insoutenable pour des dettes qui ont atteint 100% du PIB. Et donc là, il y a vraiment un très gros risque qu'a saisi Ben Bernanke. Immédiatement, il a repris en main les choses. Hein. Il a réannoncé qu'il avait bien l'objectif de rétablir le taux de chômage. Mais aujourd'hui, véritablement, la balle est dans le camp européen. C'est-à-dire que voilà, ce jeu, on risque ça parce que l'Europe n'a toujours pas mis en place une politique de sortie de sa propre trappe à liquidité keynésienne. C'est-à-dire pour l'instant, on est en panne, totalement en panne.
Oui, bonsoir. Bah, écoutez, d'abord, bravo pour votre exposé qui est assez clair et tout en étant complexe. Alors d'abord, on parle de l'Europe justement, mais l'Europe, contrairement à la Chine ou aux États-Unis, c'est pas un pays. Et les pays ne sont pas toujours d'accord entre eux. Il y en a qui sont dans l'euro, il y en a qui ne sont pas dans l'euro. Donc ça, je voulais apporter ce point-là. Vous avez parlé aussi, vous avez montré un graphique concernant le coût du travail. Je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Et que pensez-vous du débat sur la flexi-sécurité, sur le fait que les gens devraient être plus mobiles? Et puis, bon, dernière question, tellement c'est riche tout ça. Pourquoi les pays s'obstinent dans une certaine rigueur alors que... Bon, si les gens n'ont plus d'argent, comme on voit en Grèce, eh ben, il n'y a plus d'achat. Comme vous avez très bien expliqué, les choses peuvent s'arrêter.
Je réponds une à une. Pardon. Ça marche. Si, c'est bon. Alors oui, il y a la sortie, il y a l'option sortie de l'euro. Alors, je voyais déjà le temps était compté. Il est passionnant ce débat-là, mais alors il aurait fallu une séance vraiment sur ce sujet. Alors, je peux juste répondre en un mot. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'un tout petit peu mythifier justement ce qu'étaient nos dévaluations et notre. On refait de la macroéconomie, c'est-à-dire parce qu'on n'a plus cette possibilité d'ajustement, on est persuadé que si on l'a retrouvée. Ça pourrait tout résoudre. C'est-à-dire qu'on pourrait résoudre notre problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une atrophie industrielle incroyable. Hein. On a perdu le tiers de notre base industrielle en l'espace de 7-8 ans. Alors, on se dit, si j'avais un taux de change flexible, tout ça renaîtrait. Non. Oui. Non, mais je disais euro, en tout cas, sur le débat. Première question qui était hors dedans. Je pense justement, enfin, maintenant, on est allé trop loin. C'est-à-dire qu'il y a une seule réponse, c'est de faire des vrais transferts au sein de l'Europe. C'est-à-dire, l'euro est là. Défaire l'euro, on a beau dire, bien sûr, c'était peut-être une bêtise de faire l'euro, mais défaire l'euro, ça sera, c'est plus la même chose, c'est pas symétrique l'économie, malheureusement. Et je crains qu'aujourd'hui, on nous sorte, parce qu'on est en détresse, une sorte de solution magique. Il suffirait qu'on puisse ajuster. On n'a jamais vu à travers l'histoire que le taux de change résolve tout. Et là, tout d'un coup, on se met à y croire, parce qu'on l'a plus. Bon, mais c'est sommaire, ma réponse, ça mériterait. Sur les salaires. Le graphique que j'ai montré, c'était des taux de croissance. C'était du coût du travail, c'est-à-dire les salaires plus les charges sociales. Bon, qu'est-ce que ça a montré? C'est que, par tête, aujourd'hui, c'était sur un taux de croissance, alors ce qu'on appelle nominal, c'est-à-dire c'est pas du pouvoir d'achat, de 4% encore dans les années 2010-2011. Et puis aujourd'hui, on est plutôt tombé sur un rythme de 2%. C'est-à-dire on est plutôt sur une stagnation en termes de pouvoir d'achat. Voilà, c'est tout ce que je signalais, c'est du ralentissement, je voulais dire, on est sur le... et je vous avais dit, comme en plus l'emploi diminue, ben maintenant le pouvoir d'achat de l'ensemble de l'économie est négatif. Donc j'étais sur des taux de croissance, c'est tout. Donc la seule chose que je peux dire, c'est que ça ralentit, voilà. Mais on n'est pas, voilà, en gros, c'est pas ça de cher, encore. Flexi-sécurité, débat important, mais là aussi, un tout petit peu fétichiste. C'est un mot, flexi-sécurité. L'accord sur l'emploi qui a été mené récemment, est-ce que c'est de la flexi-sécurité? J'en suis pas sûr. C'est quelque chose... la flexi-sécurité, enfin, ben plus ça va, moins j'y crois. C'est-à-dire, je ne crois pas à sa transposition en France. La flexi-sécurité, c'est très bien. C'est un système qui joue sur la rotation de la main-d'œuvre, sur un contrat unifié qui protège moins, mais avec des assurances à côté qui sont extrêmement fortes, avec des systèmes de formation qui vous remettent. Et en gros, vous avez à la fois une probabilité de chômage élevée, mais une probabilité de sortie du chômage élevée. C'est un marché qui tourne. Donc, moins de désespérance du côté des chômeurs et moins de stabilité du côté de l'emploi. Mais voilà. Et derrière, il faut que vous ayez un appareil de formation super efficace, avec une mobilisation collective. Je pense que la France sait faire beaucoup de choses, mais alors, mon sentiment, c'est qu'on... J'ai pas l'impression qu'on sache co-gérer un système de formation avec cette. Alors, je me demande si on ne devrait pas jouer avec nos propres paramètres. Nos paramètres, c'est finalement quoi? c'est d'avoir un emploi relativement stable. Ça fait des décennies qu'on traverse les cycles avec un emploi enfin moins instable qu'ailleurs. Alors il faudrait mettre ce qui va avec, c'est-à-dire avoir des facilités de crédit pour passer les crises, avoir etc. Donc plus ça va, et puis je me dis arrêtons ce truc européen qui consiste à imiter le modèle du voisin. Parce que forcément, on en est tellement loin. Bon, la flexisécurité, c'est quand même des syndicats, des taux de syndicalisation de 90% avec des syndicats de métiers qui vous servent d'assureur. On en est loin en France quand même. Donc il faudrait déjà changer tout ça. Enfin, institutionnellement, on en est tellement loin que, voilà, je me dis, bon, on a utilisé le mot, mais malheureusement, on en est loin. Et c'était quoi la dernière question, Thierry? Mais parce qu'en fait, l'erreur, ça a été de penser qu'elle serait limitée, qu'on allait faire quelques victimes. Je crois que c'est tout. C'est-à-dire, on s'est dit, bon, bah, la Grèce, c'est pas grand, on voulait éviter, on voulait à la fois se montrer solidaire. Enfin, bon, on a été très candide et très naïf. Bon, sachez quand même que la crise n'était pas européenne à la base. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi à transformer une crise anglo-saxonne de surendettement privé des agents anglo-saxons en crise européenne. Ce qui veut dire que c'est nos modalités d'ajustement qui sont complètement, dès que l'environnement européen change, ça nous démontre juste qu'effectivement, on n'est pas un pays. On est un agglomérat de pays qui ne savons pas coordonner nos décisions, ce qui fait que dès qu'on est confronté à un changement d'environnement, une crise, quand les États-Unis éternuent, c'est vrai depuis toujours, quand vous avez une crise du Nasdaq en 2000, eh bien la bourse européenne plonge plus. Quand vous avez une crise avec l'épicentre dans une zone du monde, c'est l'Europe à chaque fois qui va l'amplifier. Voilà. Donc effectivement, on est dans une zone de décision totalement inachevée et du coup qui effectivement affronte très mal les changements d'environnement.
Petite précision, merci de bien parler dans le micro parce que le débat est enregistré et diffusé sur Internet, donc on n'entend pas vos interventions.
Bonjour, merci pour votre intervention. On parle beaucoup de crise, de rigueur, de relance. Alors, concernant la crise, c'est vrai que c'est pas la crise pour tout le monde, puisque pour rappeler quelques chiffres rapidement, il y a près de 1500 milliardaires dans le monde maintenant, il y en a donc plus de 210 en 2013, qui se partagent 5400 milliards au total. Donc c'est pour dire qu'effectivement, s'il y a crise, c'est pas le cas pour tout le monde. Quand on voit les violentes politiques d'austérité qui sont mises en place en Grèce, au Portugal, en Espagne et ailleurs, sans parler des pays d'Amérique du Sud ou je ne sais où, Afrique et compagnie, ou Asie. Toutes ces politiques, en tout cas pour parler de l'Europe, la Troïka, donc BCE, FMI et Commission européenne, on voit bien qu'en fait, il n'y a aucune relance, qu'au contraire, ça aggrave même les problématiques, ça les amplifie, ça crée de la misère, pour pas dire pire. On est vraiment dans des situations plus que critiques, même si c'est pas très relayé dans les grands médias. Mais effectivement, on voit que toutes ces politiques donc dites de relance, d'austérité, de rigueur, etc., débouchent sur quoi, en fait? Sur des actifs, des biens publics qui sont privatisés pour pas cher, c'est-à-dire vendus. Alors les exemples, ils sont nombreux, mais j'en citerai que deux. Les chantiers navals du Portugal, qui sont en parfait état, qui ont même des commandes en cours, mais l'État bloque, en fait, la production de deux paquebots, alors que, parce qu'il veut pas fournir, débloquer les fonds pour construire ces bateaux. On voit aussi le port du Pirée, qui maintenant appartient aux deux tiers à la Chine. Tout ça pour vendu pour pas cher. Donc effectivement, ces politiques d'austérité, on n'en voit pas le bout. Je pense qu'il n'y a pas d'ailleurs de volonté d'en sortir. C'est plus, à vie personnelle, une volonté d'enfoncer ces pays pour les dépecer, pour dépouiller en fait ces pays de leurs biens publics, de leurs actifs publics. Alors c'est vrai que pour après lancer, parler de projets industriels, moi je suis favorable à ce genre de projet industriel, mais est-ce que les grands financiers de ce monde, les grandes fortunes, les grandes multinationales, les oligarques sont prêts effectivement à se lancer dans des projets industriels? Je ne le crois pas. Je pense que c'est plutôt des projets spéculatifs. À tout craint, on mise sur effectivement la faillite de pays, des économies entières, on rachète à bas prix donc les actifs publics, on voit par exemple Montebourg, qui effectivement dans le Wall Street Journal, ça a fait un petit peu de bruit en ce moment, qui vend des parts, mais qui s'en défend, mais non, mais c'est pas ce que je voulais faire, c'est juste comme ça pour un peu remplir un peu les caisses. Donc vente de parts dans les entreprises françaises, il me semble, sauf erreur, j'ai plus le nom de celle qui l'a fait. Voilà, c'est ça. Donc il y a Safran. Donc je me dis, en fait, au final, est-ce que certains, donc les multinationales, les oligarques, et pas que les Russes, tous ces grandes fortunes qui sont déjà donc hyper riches, ces fameux milliardaires, et encore une fois, il y en a de plus en plus, n'ont-ils pas tout intérêt, en fait, à aggraver les situations économiques de ces pays, donc Portugal, Grèce, Espagne, Italie et compagnie, et on va venir à la France, pour ensuite mettre la main sur les actifs publics? Bonnes affaires à faire, en gros, pour pas cher. Voilà.
C'est effectivement ce qui se passe quand vous ne faites pas de transfert. Vous êtes obligé de liquider vos actifs Et c'est le seul choix qu'on laisse aujourd'hui à ces différents pays. Alors, vous parliez des inégalités flagrantes et le fait qu'effectivement, donc, ayant une très forte concentration de la richesse, vous avez aussi une concentration des choix et des stratégies qui sont finalement, sans être dans une vision complotiste du monde, il n'est pas faux de dire que cette hyper-concentration sur les hyper-riches aujourd'hui peut conduire à des stratégies de ce type. C'est ce que l'on voit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une volonté? Je vais vous dire, je ne sais pas exactement, mais ce que je vois, parce que je pourrais pratiquement affirmer rien de ce que vous venez de dire, parce que c'est véritablement ce qui se dessine aujourd'hui, c'est bien de la liquidation d'actifs et de meubles de famille, en quelque sorte, on ne laisse pas d'autres possibilités. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que si je devais prolonger ce qui se passe aujourd'hui en Europe, on nous dit, je vais vous dire... La réponse un peu gentillette, positive, qui est de vous dire ce scénario est tellement mortifère qu'il va finir par ébranler l'Allemagne elle-même. L'Allemagne va voir son propre marché s'effondrer et donc par nécessité, il arrivera un moment où ce qui était dans la doctrine allemande sera obligé de bouger comme ils se sont déplacés progressivement tout au long de la crise. Donc je pourrais vous dire, au fond, vous avez raison, mais... comme c'est une stratégie mortifère qui détruit le marché même et le débouché même allemand, je peux éventuellement envisager que dans une crise ultime et dans une crise majeure, il y ait une redistribution des cartes. Et l'histoire est faite de ça, c'est-à-dire que les doctrines évoluent aussi par nécessité et à travers des crises majeures. Donc voilà, bon, ça pourrait être une issue. En fait, je n'y crois pas vraiment parce que je ne crois pas du tout que ce qui se passe aujourd'hui est en train d'affaiblir l'Allemagne ou de la nécroser. Au contraire, parce que c'est ce que nous, on a une vision, mais malheureusement totalement enfermée sur notre marché unique européen. La France est à la fois sceptique sur l'Europe, mais ne sait raisonner qu'à travers le marché européen. C'est-à-dire que ce que les Allemands gagnent, c'est au détriment des autres. Si la Grèce s'enfonce, alors elle perd un marché. Mais pas du tout. L'Allemagne, aujourd'hui, elle a mis en place un système de sous-traitance, d'abord sur son Interland. Et on voit ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est que l'Allemagne, déjà, exporte pratiquement la moitié de cette production hors zone euro. Donc elle s'est totalement... Avant, on disait mécaniquement la zone euro, le grand marché unique, c'est 2/3, 70%. Donc tout ce qui se passe dans le marché unique affaiblit les pays européens. Si ça va mal, on est obligé de réagir. Mais pas du tout. L'Allemagne, aujourd'hui, est en train de mettre sous tutelle, progressivement. Donc elle rachète des actifs. La France le fait, mais en petit joueur, c'est-à-dire on prend part à ce rachat d'actifs aussi. On va voir les pays en difficulté, on leur explique qu'on est sympa, on est prêt à racheter leurs entreprises publiques, etc. Bon, et à ce jeu où on dépouille les autres, effectivement, c'est l'idée quand même que on ne joue plus le marché européen qui était censé être le havre de croissance. Rappelez-vous tout le discours un peu candide sur l'économie de la connaissance et Lisbonne, etc. Donc tout ça, on en sort et on voit aujourd'hui des stratégies assez dures, en fait, où on met sous tutelle. Et donc du coup, effectivement, si les choses continuent comme ça, on va juste avoir une mise en sous-traitance d'une Europe paupérisée autour d'une Allemagne qui sera le pôle industriel. La France, j'allais dire, elle est un peu entre deux eaux. Elle est encore en position centrale. Son industrie n'est pas 100% morte. Donc on va dire elle a encore une petite carte à jouer. Elle peut être un peu côté allemand, mais elle peut être côté sud. On ne sait pas très bien encore. Donc si elle réagit bien, on va dire... elle va se retrouver peut-être au centre d'un pôle qui ne jouera plus le marché unique, mais qui jouera la croissance extra-européenne, avec une mise sous tutelle, paupérisation, rachat des actifs des autres pays périphériques. Ce système, malheureusement, il est pérenne. Il est pérenne, il n'amène pas de crise majeure. Il remet juste l'Europe sur une sorte de réel politique où on a pris conscience que la croissance démographique était ailleurs, que les gains de productivité ailleurs, que les croissances de marché étaient ailleurs, et qu'au fond, le mythe de la croissance la croissance auto-centrée européenne avait fait long feu. Donc voilà, en ça, je serais tenté de vous dire votre schéma très pessimiste. Il a malheureusement, on peut imaginer peut-être des forces de rappel en cas de crise majeure, mais pas forcément.
Bonsoir. On a besoin d'un peu d'optimisme. On a des jeunes quand même dans la salle. Je voudrais votre avis sur l'économie sociale et solidaire, dont on entend beaucoup parler,
Et j'ai également croisé ce qu'on appelle apparemment l'économie bleue. Voilà, donc bon, c'est un petit peu à la marge du débat, mais est-ce que, selon vous, ça peut apporter un peu d'espoir ?
Je vais faire la pub à mon organisme, parce qu'en fait, contrairement à ce que vous pouvez penser, je suis un optimiste inquiet. Et si j'ai parlé de politique industrielle, c'était pas, le mot est vieux, il fait un peu... vous avez parlé d'économie sociale et de solidaire. En fait, vous avez surtout parlé de nouveaux modèles de croissance, soit par le vert, soit par le bleu, etc. Enfin, on met des couleurs, on voit bien qu'on tâtonne. Alors, allez sur le site de Xerfi, vous verrez, on a, nous, créé le concept d'économie, pour dire que ce n'est plus notre économie traditionnelle. On essaie véritablement... quel est le cœur de notre message ? C'est de dire, on vit une crise à la fois majeure, mais contrairement à ce qu'on peut dire, de manière très étonnante, on est sur une vague et de créativité et d'innovation, mais absolument incroyable dans énormément de domaines, à travers le croisement des bio, des nano, du numérique... Toutes les perspectives de croissance verte, la proximité. Alors, je dirais pas l'économie sociale. Moi, je parlais moins d'économie sociale et solitaire. Je préfère le mot économie de proximité parce que c'est véritablement aujourd'hui ce qu'on voit, c'est la capacité de mettre en œuvre des systèmes de productifs sur des territoires. Vous verrez que si l'on reparle de politique industrielle, c'est pas juste pour sortir un mot. Vous avez aujourd'hui une effervescence et une créativité et des innovations qui sont absolument fabuleuses. Je prends juste un exemple, celui qui est le plus parlant. Alors, on a parlé de croissance verte, etc. Tout ça, c'est des débats, c'est un peu compliqué. Mais je prendrai l'impression 3D. Intéressez-vous un peu à l'impression 3D. C'est très étonnant. L'impression 3D, c'est la possibilité, pour ceux qui ont lu Tintin et le lac aux requins, c'est de reproduire des objets chez soi. C'est déjà le cas, ça existe déjà. Vous avez des personnes aujourd'hui qui peuvent, à travers une imprimante 3D, reproduire des petits jouets, à travers, etc. Sauf que, si l'on considère, si c'est ce qui fait office de tâtonnement aujourd'hui, à la vitesse de progression de l'imprimante 2D, ça veut dire que dans 10 ou 15 ans, nous serons capables de produire ou de produire chez nous toute une série d'objets, de passer de la conception à la réalisation extrêmement rapidement, que vous remettez en cause toutes les chaînes de distribution, que vous remettez en cause toute la conception, que vous remettez en cause tout le droit de la propriété, que vous tombez dans une économie de la gratuité, de la semi-gratuité, etc. Vous avez là, lorsque lisez par exemple un bouquin d'Anderson sur qui s'appelle Makers, par exemple, qui est absolument passionnant, vous allez voir tout ce qui est en train de se tramer aujourd'hui. Vous allez comprendre, et d'ailleurs Obama, dans son dernier discours de l'État de l'Union, lui a reparlé deux modèles de croissance. Il a mis cette impression 3D, comme toujours les États-Unis. Ça, c'est leur bon côté, parce qu'ils ont on se focalise sur parfois leurs institutions inégalitaires. Mais ils ont au moins cette vision et cette préscience de l'industrie de demain. Et il a mis au cœur de son discours cette chose-là, en disant c'est tout le process de production qui est révolutionné. Mais ça veut dire que demain, je suis plus du tout obligé de produire en Chine. Mes circuits intégrés, je les imprime chez moi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Google, tous les grands majors de l'industrie sont en train de rapatrier leur production sur le territoire. Donc, on parlait de proximité. Alors, ça fait parfois un peu, oui, c'est l'économie des services à la personne. C'est pas très moderne, c'est pas très ceci. Ça fait un peu retour à je ne sais quoi. Mais la proximité, c'est les services à la personne qui correspondent à des nouveaux besoins. Et il y a un potentiel monstrueux. Mais c'est tout ça aussi, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une révolution et des usages et de la production et des process qui est en train de se dessiner. En fait, à la fois, on vit, et là aussi, je fais appel à une autre référence, quand vous avez des crises financières graves, en général, vous avez des changements essentiels qui se jouent dans l'économie. Les crises financières, c'est quoi ? C'est des moments où vous avez eu des euphories. Il y a un bouquin de Kindleberger très connu qui s'appelle Crisis Mania, Crisis je ne sais plus quoi. Pour le titre, vous le chercherez. Mais qui nous dit... Vous avez toujours eu des grandes spéculations au moment où vous aviez les plus belles inventions. Au moment des chemins de fer, par exemple, tout le monde s'est emballé pour les chemins de fer et tout s'est effondré comme un château de cartes. Il n'empêche que l'invention des chemins de fer, elle est demeurée. On s'est emballé, on s'est planté sur les rendements, sur la rapidité de la diffusion, etc. On s'est planté, mais l'économie a été bouleversée. Et très probablement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ça. Et c'est là que nos décideurs doivent enfin arrêter de raisonner macroéconomie, se dire qu'on va s'en tirer soit par du taux de change, soit par des taux d'intérêt, soit par de la rigueur budgétaire. C'est-à-dire que vous avez vraiment des positionnements à prendre extrêmement important des positionnements technologiques, essayer de ne pas louper le coche de ce changement qui est probablement essentiel. Et là, vous avez une prolifération. Enfin, je vous invite vraiment à vous intéresser à cette dimension réelle de la production. Ça vous fera oublier très rapidement la macroéconomie. Vous allez voir, vous vous direz, mais arrêtons de penser qu'on va répondre à ces défis uniquement avec des manettes, comme ça, unidimensionnelles. Essayons de faire comme nos ancêtres, c'est-à-dire, on va dire, dans l'après-guerre, on avait des projets. Alors, c'était des projets simples parce que c'était du rattrapage. C'était le plan Marshall, on avait un modèle américain, on avait des technologies qui existaient déjà, qu'il fallait juste rattraper. On pouvait planifier tout ça. Aujourd'hui, c'est une prolifération, c'est un saut dans l'inconnu. Mais en tous les cas, c'est de la même ampleur. Ce sont des défis technologiques essentiels. Il faut les manager autrement, sur un mode beaucoup plus décentralisé au niveau de chaque territoire. Il faut arrêter d'avoir cette vision colbertiste des choses, etc. Donc, véritablement, il faut changer nos logiciels d'action politique. Et j'insiste sur la dimension locale, puisque vous avez parlé de proximité. Et se dire qu'au fond, nos instruments macroéconomiques sont vraiment extrêmement pauvres par rapport à tous ces défis aujourd'hui.
D'autres questions ? On va peut-être voir quand même. Mais... Je vous laisse la parole.
C'est plus pour... Oui, bien sûr. C'est plus pour revenir. En fait, vous avez évoqué un moment les emprunts à des taux négatifs. On prête 100 et donc on va se faire rembourser. On va avoir un retour de 97, c'est ça ?
Non. On va avoir des taux. Donc je place 100 sur des obligations allemandes.
Ouais.
Et on me paye un tout petit chouïa, 0,3% par an. Un taux d'intérêt. Donc c'est okay. Moi, au lieu de. Pardon. Oui, l'État, au lieu de. Je prête à l'État allemand, et en plus de ça, je lui verse 0,3%. C'est-à-dire, j'accepte une petite érosion. D'accord. C'est-à-dire, on ne me rendra que 99,7%. 99,7, pardon. Donc je prête 100, on me rendra à terme 99,7.
D'accord.
Ça veut dire que c'est l'État, vous payez celui qui vous emprunte. Okay. Pourquoi ? Parce que il vous garantit une sécurité quasi totale dans un monde totalement incertain. Vous savez que l'État allemand ne fera jamais faillite. Alors, dans un monde où vous ne savez pas très bien où vont toutes les grandes institutions, vous êtes prêt à payer ce petit prix pour mettre à l'abri votre argent. Vous considérez même que vos dépôts liquides dans les banques, et vous voyez, l'actualité récente l'a montré, n'est pas totalement sécurisé. Et qu'au fond, il vaut mieux rester adossé à un agent public qui a quand même quelque chose de plus que les banques, c'est-à-dire la capacité de lever des impôts.
La dette publique française est détenue à 56% par des non-résidents.
Oui.
On n'a pas le droit d'ailleurs, je crois, de savoir à qui on doit de l'argent, donc ça c'est formidable. L'AFT, l'Agence française du Trésor, ne communique pas là-dessus. Le Japon, lui, c'est 90%
en
résidents
interne.
Oui. En interne. Quels sont les avantages et inconvénients ? Et juste, ça sera la dernière, une étude de Xerfi, c'était un intervenant Xerfi dont j'ai oublié le nom, évoquait, alors c'est un peu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il expliquait qu'en fait, rapporter la dette au PIB, c'était un peu idiot, parce que la dette, c'est du stock, donc la dette de 1800 milliards d'euros, avec les 60 milliards, je crois, d'intérêts, c'est du stock, alors que le PIB, c'est un flux, donc chaque année, oui. Il y a un... Voilà, donc, mais ça, je ne me rappelle plus trop, si vous pouviez, voilà, sur dette non-résident-résident, et est-ce qu'avantage inconvénient, et si vous pouviez expliquer ce...
Alors, résident-non-résident, non, évidemment, ce n'est pas neutre. Regardez, simplement, vous avez une illustration, vous avez dit le Japon, 90% détenus en interne. Quelle est la tolérance pour la dette ? C'est 200% du produit intérieur brut. Vous n'avez pas le même risque de retrait. Vous maîtrisez, lorsque vous avez institutionnalisé, donc vous aviez à l'époque les grands emprunts, et lorsque vous avez la mainmise sur l'emprunt public, alors vous n'avez pas du tout les mêmes risques de retrait brutaux et d'arbitrage des investisseurs qui, du jour au lendemain, décident, parce que ce qu'on appelle une crise de liquidité, c'est-à-dire une crise de défiance qui peut être totalement subjective. Hein, demain, vous avez donc une agence de notation Alors aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup d'effet, mais il fut un temps où vous savez quel effet. Donc là, évidemment, c'est extrêmement important. D'où l'idée, d'ailleurs, de revenir à une renationalisation en partie de la dette. C'était le cas d'Italie il y a une dizaine d'années. Ce qui faisait d'ailleurs que lorsque les taux d'intérêt de la dette augmentaient, au lieu de casser la croissance, ça augmentait le revenu des ménages. Donc vous aviez un truc paradoxal, c'est que lorsque les taux d'intérêt augmentaient, c'était le seul pays d'Europe chez qui ça procurait de la croissance, parce qu'ils avaient une dette extrêmement importante. Les ménages avaient un actif adossé sur de la dette avec un état relativement peu crédible, mais qui leur versait des taux d'intérêt relativement confortables. Mais tout ça était réinjecté. Alors, voyez aussi l'intérêt. Reprenez le cas de la Grèce. Si demain, éventuellement, vous maintenez des taux à 10, 12, 17%, mais que cet argent, en fait, c'est un transfert sur les ménages, les plus riches, d'accord, j'en conviens, mais lorsqu'il s'agit parfois d'emprunts obligatoires, ça peut être mieux partagé, vous avez quand même un effet de bouclage keynésien. Donc les mécanismes ne sont plus les mêmes, et il faut effectivement y réfléchir. Des économistes très sérieux aujourd'hui, je pense à Stiglitz et bien d'autres, nous invitent à réfléchir à cette question-là de renationaliser la dette. Dette sur PIB maintenant, question extrêmement importante, effectivement. Bon, ça veut dire quoi ? Dette sur PIB, c'est un stock. Et qu'est-ce que veulent nous dire les économistes qui nous disent « Attendez, vous mettez un stock sur un flux ». Bon, ils font ce que moi j'ai fait là, c'est de dire « Bon, la dette, derrière j'ai une charge, et la charge, je la paye en fonction de ce que je produis, du revenu annuel, etc. » Bon, c'est une approximation qui a son sens, mais qui ne dit pas tout. Elle ne dit surtout pas « Qu'est-ce qui se passe si j'avais une approche patrimoniale ?» J'ai de la dette, mais qu'est-ce que j'ai en face ? Vous avez des pays qui ont 100% de dette, mais si vous avez de superbes infrastructures, si vous avez un système d'enseignement hyper performant, si vous avez un actif donc matériel, immatériel, extrêmement performant, ben vous allez raisonner comme dans une entreprise. Vous avez des entreprises qui ont des taux d'endettement considérables, mais lorsque c'est adossé à un capital extrêmement efficace et productif, jamais vous allez considérer ce pays insolvable. Donc là, vous êtes... Et normalement, la solvabilité, c'est une notion effectivement qui devrait se réfléchir davantage en stock. C'est qu'est-ce que vous avez comme qualité d'actif en contrepartie de votre endettement. Et là, vous voyez d'ailleurs, il y a un débat en France qui est de dire, au fond, nos actifs ne sont pas si mal que ça. Nous avons surtout une culture du collectif et des institutions qui fonctionnent assez bien et d'ailleurs qui font aujourd'hui l'attractivité du territoire. On est à la fois central, on a des institutions sociales relativement efficaces et vous attirez des cerveaux et des compétences et des entreprises d'ailleurs sur cette base, même avec des impôts très élevés. Donc effectivement, c'est une invitation à réfléchir la dette de manière patrimoniale, autrement et... Ça fait sens, bon, je veux dire, à cela près qu'on ne sait pas très bien mesurer la valeur de l'enseignement. Tout ça, c'est très immatériel et il y a des conventions derrière qui sont problématiques, bien sûr.
Oui, j'avais une autre question. Vous dites que un État peut être en faillite. Or, on nous dit souvent qu'un État ne peut pas être en faillite. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que parce que un État, il a toujours moyen de, il vaut quand même un petit peu quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous dites ça par rapport à ce qu'on entend souvent dire ? Non, un État ne peut pas être en faillite.
Alors, l'État, En règle, ce qui était dit et ce qu'on a un petit peu trop vite dit, c'est que les États ne pouvaient pas être en faillite parce qu'ils ont cette capacité de lever l'impôt et parce que dans un État souverain normal, avec une monnaie complète, ce qu'on appelle une monnaie complète, il y a une banque centrale et que cette banque centrale fait office de prêteur en dernier ressort. Bon, sauf que l'Europe, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est pas tout à fait une nation complète, c'est une banque centrale qui ne conçoit pas sa monnaie, qui ne garantit pas entièrement sa monnaie. Elle a une monnaie donc incomplète, puisqu'elle ne garantit pas, vous voyez, tous les dépôts de la même manière, elle ne garantit pas tout. Bon, et par ailleurs, même dans une économie de ce type, je prends le cas des États-Unis, donc voilà, le pays qui a le plus de marge de manœuvre, vous ne pouvez pas exclure demain une crise majeure. D'ailleurs, vous pouvez avoir... c'est un peu compliqué à envisager, mais même les banques centrales peuvent se retrouver en difficulté. Donc vous pouvez quand même... Il y a des cas extrêmes où vous avez des faillites de système. Lorsque vous partez donc dans une défiance totale, quand tout le système de crédit est bloqué, que plus personne ne veut prêter à personne, et que la banque centrale elle-même s'est chargée de tellement d'actifs pourris que son bilan lui-même s'écroule, bon, il arrive un moment quand même, vous pouvez envisager, même dans la plus puissante des économies, un blocage complet. Donc on ne peut pas mettre une probabilité nulle. Bon, maintenant, c'est quand même une situation, historiquement, ce que l'on constate, c'est que, heureusement, les États font plutôt des défauts partiels. Et ils savent aussi faire de l'inflation. Enfin, il y a plein de techniques pour sortir de l'endettement qui ne sont pas que la rigueur. Ça peut être de l'inflation, ça peut être du défaut partiel, etc.
Je pense qu'on va, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. C'est loin d'être fini comme débat, j'imagine. Beaucoup de portes ouvertes. Merci à tous de votre participation. Je vous donne rendez-vous le 5 juin pour la dernière séance de notre cycle, qui aura pour thème le développement durable, un petit peu plus prospectif et avec peut-être un petit peu d'optimisme pour le coup sur les thèmes qu'on a abordés. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous.